Il est 19h, bienvenue à vous tous et à vous toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron, président footballeur, et il s'en sort pas mal, nous dira Cyril de la Morinerie qui suit cette rencontre caritative à Poissy.
De plus en plus cher les carburants à la pompe, le gouvernement réfléchit aux moyens d'aider les Français qui en ont le plus besoin. L'assassinat de Samuel Paty, c'était il y a près d'un an. Demain, tous les élèves de France sont appelés à lui rendre hommage. Et puis, il est passé par ici, il repassera par là. On vous dira tout sur le tracé du Tour de France 2022.
Et la météo, c'est la tendance avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence. Le temps de ce vendredi reste sec et doux, sous un ciel plus ou moins voilé. Des précisions à la fin du journal.
Europe 1. Un président sur un terrain de foot, c'est l'image de la soirée. Emmanuel Macron dispute un match caritatif à Poissy dans les Yvelines.
Oui, un match de gala pour les 50 ans du Variété Club de France. La recette ira aux pièces jaunes, fondation présidée par Brigitte Macron. Amour du football ou coup de com', peut-être les deux, mon général. En tout cas, Cyril de la Morinerie, le président tient la forme.
Oui, il tient la forme, effectivement. Il a laissé son costume au vestiaire. Il est très à l'aise, le président de la République, avec sa tenue de foot. Emmanuel Macron est arrivé sur la pelouse vêtu d'un short blanc, chaussette blanche et maillot bleu.
Numéro 3, et c'est notre surprise et notre attente, Emmanuel Macron.
Depuis le début du match, le président de la République ne s'économise pas. Et à la 8e minute, Emmanuel Macron se retrouve face au gardien.
Pénalty en faveur du Variété Club de France. Emmanuel Macron s'apprête à le tirer. Et but ! But !
Voilà, une très belle frappe plein centre. C'est l'égalisation. Un président qui aime en effet avoir une position centrale sur le terrain. Mais on l'a vu faire quelques incursions, balle au pied sur les côtés, plutôt défensive sur sa gauche et très offensive sur l'aile droite en tribune. Les spectateurs applaudissent les actions présidentielles comme Pascal qui décrypte la performance donc du président comme s'il avait affaire à un joueur de foot.
Et bien sûr, Emmanuel qui marque un but, un pénalty formidable. Je ne l'avais jamais vu sur le terrain, évidemment, là, forcément, je suis impressionné. Ça repart, hop, c'est Macron, oh là là.
Il joue plus à droite ou plus à gauche, selon vous?
Ah bah là, il est à droite.
Il ne va pas trop sur le côté gauche?
Bah, je ne l'ai pas vu dépasser le milieu de terrain. Même au pénalty, il était pile sur la ligne.
Voilà, c'est la première fois qu'un président en exercice joue avec le Variété. Un président de la République très affûté physiquement qui n'est toujours pas sorti du terrain. Je le vois encore galoper avec son numéro 3. Et un club du Variété qui mène 4 buts à 1 après le premier but donc marqué par Emmanuel Macron sur pénalty.
Voilà, un président qui galope très offensif sur son aile droite, nous disait Cyril de la Morinerie depuis Poissy pour Europe 1. Hier soir, un autre match caritatif se jouait à Marseille au Vélodrome. Résultat, plus de 430 000 euros récoltés pour l'UNICEF. Et puis avant d'endosser la tenue de footballeur, Emmanuel Macron, qui visitait plusieurs sites des futurs JO de 2024, a annoncé un énorme coup d'accélérateur pour mettre le sport au cœur de la nation. 200 millions débloqués, 5 000 équipements de proximité seront construits.
Et si cette journée était particulièrement dédiée au sport, Emmanuel Macron n'a pas pour autant oublié d'évoquer un grand sujet d'inquiétude pour les Français, la hausse du carburant.
Oui, les prix à la pompe sont au plus haut depuis 10 ans. Le président promet d'agir.
Il y a une action que nous menons sur le plan diplomatique et international pour essayer de décontraindre ces prix. Deux, il y a une action de court terme qui est en effet d'accompagnement des ménages. Et le gouvernement y travaille et aura dans les prochains jours à compléter sa réponse en fonction de l'évolution pour ne laisser personne dans le désarroi.
Voilà Emmanuel Macron et ce matin, invité de Sonia Mabrouk, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a bien confirmé que le gouvernement envisageait des pistes pour aider nos concitoyens les plus en difficulté qui ont vraiment besoin de leur voiture. On sait quelles pourraient être ces mesures, Maud Descamps.
Oui, alors il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Une première option serait de jouer sur les taxes, notamment la TVA, mais cela voudrait dire baisser le prix de l'essence pour tous les automobilistes, sans faire de distinction entre les plus aisés et les plus modestes, ni entre ceux qui conduisent des véhicules très polluants et les autres. Pour aider les Français qui en ont le plus besoin, il y a aussi la piste d'un chèque carburant, un peu comme le chèque énergie. Cela permettrait de cibler les bénéficiaires, mais là encore, pas facile de déterminer qui y aura droit et selon quels critères. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le chef de l'État pousse les ministres concernés à trouver des solutions rapidement. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a appelé en début de semaine les distributeurs à rogner leurs marges. Un appel aussitôt rejeté par les principaux intéressés. Il va donc falloir trouver rapidement d'autres solutions.
Maud Descamps, du service économie d'Europe 1.
C'est une décision hautement symbolique validée par le Parlement aujourd'hui, près de 30 ans après la catastrophe du stade de Furiani en Corse. Il n'y aura plus aucun match de foot professionnel le 5 mai.
Oui, une manière de sacraliser la date du drame qui avait coûté la vie à 19 personnes et fait plus de 2300 blessés. Écoutez, Josefa Giudicelli, elle est présidente du collectif des victimes de Furiani et satisfaite d'avoir enfin eu gain de cause.
C'est l'aboutissement d'un combat. Voilà, notre démarche sur le gel des matchs du 5 mai, elle a été longue et difficile. Donc ce vote a été plus qu'important. Et la loi est venue inscrire dans le marbre le respect pour les victimes. On ne conçoit pas que d'un côté, on soit à la stèle en train de commémorer la plus grande tragédie du sport français et de l'autre côté, qu'on fasse la fête pour une victoire par rapport à un match de foot. Donc le vote de ce matin au Sénat, c'est vraiment une véritable victoire et c'est un soulagement pour les victimes et les familles des victimes.
Voilà, soulagement de la présidente du collectif des victimes de Furiani.
Ce souvenir de Samuel Paty, assassiné il y a presque un an près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Demain, une journée d'hommage est prévue dans les établissements scolaires.
Oui, écoles, collèges et lycées sont en effet invités à honorer la mémoire de l'enseignant tué par un terroriste tchétchène de 18 ans. Virginie Riva, le ministère de l'Éducation souhaite que chaque établissement propose un temps d'hommage, mais sans aucune directive.
Oui, en réalité, chaque directeur d'établissement organise cet hommage un peu comme il le souhaite. Le ministre invite à un temps de recueillement, mais ça ne prend pas forcément la forme d'une minute de silence. Ça peut être, par exemple, pour les plus petits, les CM2 allumer des bougies ou bien une installation avec des photos de Samuel Paty. Une proviseure à Nice, par exemple, a fait un montage vidéo avec des photos du professeur, des extraits de l'hommage du président de la République. Vidéo qui sera diffusée dans une salle de classe dédiée toute la journée. En cas de perturbation, en revanche, le ministre a été très clair. Il y aura des sanctions. Ensuite, le ministère encourage également un temps d'échange pédagogique dès la sixième sur la construction de l'esprit critique et sur le rôle du professeur. Dans un collège à Paris, une proviseure a pris l'initiative d'inviter des avocats pour travailler sur des cas pratiques sur la liberté d'expression. Des enseignants au lycée m'ont dit vouloir insister sur le choc qu'a représenté pour eux l'assassinat de leurs collègues alors que les élèves sont pour beaucoup déjà passés à autre chose.
Virginie Riva, et selon les informations d'Europe 1, la famille de Samuel Paty sera reçue à déjeuner à Matignon. Samedi.
C'est un pays scandinave, pourtant réputé très calme, mais la Norvège a été frappée de plein fouet par la violence.
Hier, un homme de 37 ans de nationalité danoise converti à l'islam a utilisé un arc et des flèches pour tuer 5 personnes et en blesser 3 autres dans une petite ville à l'ouest d'Oslo. Au CNTR, la piste terroriste semble bel et bien se confirmer.
Oui, les services de sécurité norvégiens évoquent un possible acte terroriste. Une piste également envisagée par la police. Elle a identifié l'auteur présumé des faits, Espen Andersen Bratten, un homme de 37 ans d'origine danoise converti à l'islam. D'après le responsable de la police norvégienne, il était déjà connu des autorités.
Il y a eu des craintes liées à une radicalisation précédemment. Nous n'avions pas eu de signalement en 2021, mais avant.
L'auteur présumé sera présenté demain à un juge en vue de son placement en détention provisoire. D'après la procureure en charge du dossier, il doit aussi passer des examens psychiatriques. Une attaque qui réveille de douloureux souvenirs chez les Norvégiens. Ces 10 dernières années, le pays a connu 2 attentats, dont la double attaque d'Oslo et d'Utøya le 22 juillet 2011, qui a coûté la vie à 77 personnes.
L'assaillant a donc été arrêté hier soir et sera présenté demain à un juge qui devrait le placer en détention provisoire.
Une petite pause et dans un instant, Gérald Darmanin porte plainte contre Philippe Poutou qui affirme que la police tue 15 jeunes tous les ans dans les quartiers populaires. On y revient dans un instant dans le journal de 19h. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans le journal de 19h sur Europe 1 avec le journal d'Hélène Zélani. Hélène, des critiques contre la police ne passent pas. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'apprête à déposer plainte contre Philippe Poutou.
Oui, candidat à la présidentielle du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Écoutez ce qu'il disait hier chez nos confrères de France Info.
La police tue, évidemment la police tue. Il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure.
Des propos insupportables pour Stanislas Godon, il est délégué du syndicat Alliance Police Nationale.
Monsieur Poutou a toujours eu des écarts de langage, mais en tout cas il va falloir que ça cesse, parce que là les collègues en ont vraiment assez de ces affirmations qui sont vraiment inadmissibles. Dire que les policiers tuent dans les quartiers des jeunes, mais je ne sais pas d'où est, sur quelle planète il vit ce monsieur. Il pense que la police elle ne subit rien dans les quartiers, on a 16 policiers blessés par jour, on en a 600 qui sont blessés par arme, donc je crois que c'est ça la réalité qu'il va falloir que monsieur Poutou accepte ouverte. Donc si M. Poutou a décidé de lancer sa campagne présidentielle en faisant du buzz sur des affirmations abjectes sur les policiers, eh bien, plutôt que d'avoir rendez-vous avec les électeurs, il aura rendez-vous avec la justice. Et là, nous en appelons à la fermeté des magistrats du siège notamment.
Le délégué du syndicat Alliance Police Nationale dans Europe Midi avec Romain Desarbres. Un terrible meurtre à Agde dans l'Hérault. Une retraitée de 77 ans a été retrouvée décapitée dans sa maison. La piste terroriste n'est pas privilégiée. Selon nos informations, les policiers recherchent activement un suspect vu sur les caméras de la ville.
On en avait beaucoup parlé en juin dernier. L'inconscience d'une jeune femme avait provoqué une chute spectaculaire d'une cinquantaine de coureurs du Tour de France.
Oui, elle avait brandi sa pancarte en empiétant sur la route. Il n'avait pas pu l'éviter. Elle comparaissait en justice aujourd'hui à Brest. Charles Guyard, une audience que vous suiviez pour Europe 1.
Oui, c'est une jeune femme au regard apeuré, à la démarche hésitante qui s'est présentée à la barre. C'est elle qui, le 26 juin dernier, a donc précipité un quart du peloton du Tour de France sur le bitume de la départementale 30 entre Brest et Landerneau. Pause, ralenti, retour en arrière. Sur les écrans de la salle d'audience, on a visionné, disséqué la séquence. Quelques secondes d'images vues et revues dans le monde entier qui ont d'ailleurs valu à Flavie, déjà fragile psychologiquement, d'être submergée par un torrent d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. C'est arrivé tellement vite, il y avait les cris de joie. Après, j'étais pétrifié, j'ai fait peur à des gens à côté, j'ai blessé des coureurs. C'est une énorme bêtise, articule-t-elle d'une voix chevrotante. Une bêtise qui a donc poussé pour la première fois deux associations de coureurs professionnels à déposer plainte. Elles étaient représentées par Maître Romuald Paléo.
Nous, on est là pour représenter la collectivité des coureurs et puis on compte la représenter vraiment jusqu'au bout. Et s'il faut se représenter devant un tribunal pour dire que ce type de comportement ne doit pas se reproduire, et oui, on sera devant un tribunal pour le dire, bien sûr.
Et la procureure de Brest a réclamé 4 mois de prison avec sursis pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Jugement le 9 décembre.
Charles Guyard à Brest pour Europe 1.
Et puis la grande boucle 2022, demandez le programme. Départ le 1er juillet du Danemark, arrivé sur les Champs-Élysées le 24.
Oui, et entre-temps, les coureurs devront parcourir 21 étapes, un tour qui s'annonce particulièrement compliqué en première semaine, Axel May.
Oui, parcours compliqué car varié avec notamment un contre-la-montre inaugural à Copenhague, une étape très exposée au vent, le transfert en avion pour rejoindre le nord de la France, les pavés qui feront leur retour, un petit passage par la Belgique, une arrivée au sommet d'une belle côte à Alonwy, parfaite pour un coureur puncher, un type Julien Alaphilippe. Tout cela la première semaine. Écoutez d'ailleurs ce qu'en pense le double champion du monde.
Une première semaine qui s'annonce palpitante avec différents terrain d'expression, il y aura du mouvement dans tous les cas, ça c'est sûr. Et pour la première fois qu'on voit le parcours, ça donne envie. Hein.
Et pour ce qui est de la montagne, il y aura 5 arrivées au sommet, dont la planche des Belles-Filles dans les Vosges, l'Alpe d'Huez le 14 juillet et Otakam dans les Pyrénées. La veille de l'arrivée à Paris, un contre-la-montre sera organisé du côté de Rocamadour. 3300 km au total d'un parcours qui, contrairement aux deux éditions précédentes, zappe totalement l'ouest de la France.
Et puis Axel, c'était l'autre événement du jour, le retour du Tour de France féminin. Après plus de 10 ans d'absence, tout un symbole, les femmes vont partir de Paris le jour même où les hommes arriveront.
Départ de la Tour Eiffel, arrivée sur les Champs-Élysées juste avant les garçons, puis 7 autres étapes dans l'Est de la France jusqu'à la planche des Belles-Filles le 31 juillet. À 32 ans, Audrey Cordon-Rago était l'une des cyclistes invitées à la présentation à Paris.
C'est un grand pas vers la reconnaissance du cyclisme féminin, c'est ce qu'on attendait depuis des années. J'ai l'impression de faire partie un petit peu des vieilles aujourd'hui, mais on s'est tellement battu, on a tellement grogné pour l'avoir qu'ils ont fini par craquer.
Et l'idée, c'est que cette grande boucle féminine soit à l'équilibre budgétaire dès la première année.
Merci Axel May.
On va faire un petit point météo avec vous Marlène Duret. Bonsoir Marlène, qu'est-ce qui se passe alors pour la météo?
Eh bien le temps pour ce vendredi sera calme, sec, lumineux. Le ciel ne sera pas aussi bleu qu'aujourd'hui, il sera un petit peu brouillé, plus ou moins voilé. L'impression s'annonce quand même plus belle sur la façade atlantique avant de gagner les régions du sud-ouest. Et puis dans les Alpes, eh bien là, le voile nuageux va plutôt arriver en cours de journée. Des conditions donc calmes, sèches, propices au brouillard le matin, notamment dans le nord-est et le long de la Garonne. Et puis propice aussi à la dégradation de la qualité de l'air, puisqu'il n'y aura pas de vent, donc les polluants ne peuvent pas se disperser, puis l'anticyclone agit un petit peu comme une cloche. Alors il y aura une région qui va se retrouver sous un ciel couvert, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Petite faiblesse de l'anticyclone, donc avec quelques pluies faibles, et ces nuages vont avoir tendance à gagner vers la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, le nord de la Lorraine, de la Champagne. Quant aux températures, eh bien elles évoluent peu, ça veut dire qu'on aura encore des gelées au petit jour, dans les campagnes évidemment, et puis les maxis l'après-midi devraient varier entre 15 et 19 sur la moitié nord jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis en continuant vers le sud, 19 à 22 degrés, 22 par exemple du côté de Carcassonne.